avons vu la dernière fois comment Aristote, au début donc de ce livre 2, découvre la phusis. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre et, j'allais dire, de rajeunir notre regard sur la phusis. C'est vrai, parce que la nature, hein, tout le monde en parle. Et on a très facilement un regard, j'allais dire, à la manière de Cicéron. La nature, c'est... Alors, ce qui est très important, c'est de saisir cette induction, puisque c'est par là que notre intelligence s'affine. Ne l'oubliez jamais. Elle s'affine en montant, et quand elle descend, elle s'affine moins, puisqu'elle assume des quantités de choses. Tandis qu'en montant, elle se purifie. Il y a une abstraction dans toute induction. Donc on laisse tomber des quantités de choses secondaires pour ne prendre que le nécessaire. On passe du multiple à l'un. C'est le propre de l'induction. Alors, la première induction, évidemment, la première induction, c'est celle de la philosophie de l'art. C'est celle que Platon avait découvert. Et il avait fait de cette induction une induction qui regardait toute la philosophie. Cette induction de la philosophie de l'art, Aristote la garde, c'est sûr. Et cette induction de l'art, de l'eidos, est présupposée génétiquement à la découverte de la nature. De sorte, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, la philosophie de la nature n'est pas du tout première génétiquement. Ce qui est premier, c'est la philosophie de l'art. C'est l'eidos. C'est la découverte de l'inspiration et de l'eidos. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Je crois que c'est très très important pour maintenir un regard réaliste. Alors, ça n'est pas dit habituellement. Hein, parce qu'on regarde encore Aristote trop dans un regard que la scolastique a marqué. Le regard de saint Thomas sur Aristote, c'est très intéressant, mais c'est le regard d'un théologien qui se sert d'Aristote. Ce n'est pas du tout le regard d'un philosophe qui se met à l'école d'Aristote pour voir ce qu'est la philosophie réaliste. Saint Thomas ne s'est jamais posé le problème comme ça. Il n'avait pas à se le poser, du reste. Tandis que nous, nous avons à nous le poser. Parce qu'on assiste à la perte complète de la philosophie. On ne sait plus ce que c'est que la philosophie. Un naufrage généralisé, ce que disait Heidegger. Et donc nous devons nous redécouvrir cela. Et je crois qu'ici c'est très net, Aristote commence par les réalités naturelles et les œuvres d'art. Donc pensez et développez ça avec Monsieur Teste de Valéry. Parce que c'est toujours très intéressant de replonger ça dans notre milieu ou dans une recherche archéologique pour trouver un petit caillou dans le fond de la terre. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est un petit caillou? Toujours intéressant à se poser la question. Vous trouvez au désert un beau silex, est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est très simple, c'est le point de départ. Et c'est toujours une question qu'on se pose. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est quelque chose de purement naturel. Une petite arête de poterie. Alors, une fois que c'est ce point de départ, Aristote ne dit pas, je crois qu'on peut expliciter, c'est que toute induction présuppose une interrogation. Oui, Aristote ne le dit pas. Et nous devons le remettre en lumière. La scolastique a fait tomber toutes les interrogations. Quand Aristote dit qu'il est plus proche de Socrate que Platon est proche de Socrate, comme petit-fils de Socrate, ça saute une génération. Aristote remet en valeur les interrogations de Socrate. Mais il ne le dit pas. Or, il n'y a pas d'induction sans interrogation. C'est impossible. Et l'interrogation jouant le rôle au plan philosophique de l'hypothèse en induction scientifique. Il n'y a pas d'induction scientifique sans hypothèse. Et alors il faut redécouvrir ici ce que représente l'interrogation. Et l'interrogation quand on est en face d'une œuvre d'art, c'est savoir qu'est-ce que c'est, pas une œuvre d'art, une œuvre naturelle, qu'est-ce que c'est que cette réalité qui est mue ? D'où vient-elle ? Comment se fait-il qu'il y a un mouvement naturel ? Qu'est-ce que c'est que le mouvement naturel ? On part de la réalité mue. Alors c'est ça que nous avions vu en dernier lieu, la nature étant ainsi un certain principe et la cause du fait de se mouvoir et d'être en repos. Alors il faut bien saisir ça. Os, us est, es, fuseos, arcestinos, kai aisia, tu, kai inestai, kai eremein, en o uparkei, protos, katoto, kai me, kata, sumbebekos. Ça, il faut le souligner 36 fois et bien comprendre. Alors, du fait de se mouvoir, je ne sais pas si c'est tout à fait bien traduit. Ça, je demanderai aux hellénistes, les distingués d'ici. Quels sont les bons hellénistes ici ? Lève la main, humblement, lève la main. Quels sont les hellénistes distingués, n'est-ce pas ? Pour corriger la traduction. J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns. Les latinistes, je sais. Mais les hellénistes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, Jean de Dieu, je le sais. Donc il n'y a pas besoin de lever la main. Qu'est-ce qu'il y a comme hélénistes ? Assez quand même. Ben, j'aimerais bien. Et vous, frère Gabriel ?
Je commence.
Vous commencez. Frère Marie-Dominique, aussi quand même, un peu. Je crois qu'il est bon d'aiguiser votre sens. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse voir, parce que c'est bon d'essayer. Vandan, il est très éleveur. Vous aussi, là-bas, pas Vandan. Vous connaissez là suffisamment le grec pour essayer de voir si la traduction est juste. Est-ce que c'est juste de dire du fait de se mouvoir et d'être en repos? Je ne sais pas, moi je mettrai un petit point d'interrogation. Alors j'aimerais bien que les hellénistes distingués réfléchissent pas maintenant, mais après, puis corrige la traduction s'il faut la corriger. Hein ? La nature étant ainsi un certain principe, donc le principe est la cause du fait de se mouvoir. Et d'être en repos. En ce en quoi elle réside en premier, par soi et non selon l'accident. Vous comprenez que ceci, c'est très important que ce soit bien traduit. Puisque c'est la réflexion d'Aristote sur la découverte de la phusis. Qu'est-ce que c'est que la phusis ? La phusis, c'est principe, cause de ce qui est mu. De ce qui est mu et de ce qui est en repos. Et principe et cause, en ce en quoi elle réside en premier, elle réside en ce qui est mu, dans celui qui est mu, par soi et non selon l'accident. Donc cause propre. Le katoto, c'est le cause propre. C'est pour souligner le point de vue de la cause propre. Et non me kata sumbebeko. Je dis, là on continue. Vous voyez bien, l'induction part, elle est très simple l'induction, elle est d'une simplicité extraordinaire. Hein. Et comme toujours, Aristote ne développe jamais ses inductions. Pour bien comprendre ce que c'est que l'induction, il faut regarder les secondes analytiques. Dans les secondes analytiques, Aristote montre qu'un principe n'est connu que par induction. Ça, c'est affirmé d'une façon très nette. Donc, dès qu'Aristote affirme un principe et une cause, on sait que c'est dit par induction. Vous voyez, c'est la lumière critique qui nous donne dans les seconds analytiques, qui nous permet de dire ça. Parce que si je lisais ça sans les seconds analytiques, je ne pourrais pas le dire. Je ne le verrais pas. Donc, il part. On va essayer de réfléchir un instant. L'expérience. Il y a deux œuvres, deux réalités existantes. On part des réalités existantes. Parmi les réalités existantes que j'expérimente, il y a les réalités existantes qui sont artificielles et les existences naturelles. Voilà. Donc, vous voyez, dans l'expérience, il y a une division. Donc, c'est déjà une expérience très élaborée. C'est pas l'expérience, hein. Je donne un coup de pied dans un tas de terre et c'est une expérience. C'est pas ça du tout. C'est une expérience très élaborée qui présuppose déjà l'induction de l'art. Parce que artificiel, ça veut dire un principe des réalités qui ne peuvent se comprendre, dont l'intelligibilité de ces réalités implique un principe extrinsèque. L'idée, l'aïdos. Une œuvre d'art n'est compréhensible que grâce à un principe extrinsèque. C'est très important pour comprendre ce que Heidegger dit à propos du sphinx. Et c'est à partir de là que s'est élaborée toute l'herméneutique. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, c'est très très important de bien comprendre ça. C'est à partir de ce principe extrinsèque de l'aïdos. La réalité artificielle présuppose un principe extrinsèque qui donne l'intelligibilité de la chose. Ça ne veut pas dire que l'œuvre d'art n'a pas d'intelligibilité propre. L'œuvre d'art a son intelligibilité. Mais l'intelligibilité parfaite de l'œuvre d'art ne peut se faire que par un principe extrinsèque. Tandis que la réalité naturelle, c'est une réalité qui à son intelligibilité propre, sans recherche de principe extrinsèque. C'est le principe propre, immanent. Voilà l'œuvre naturelle. Et alors, il s'agit de découvrir ce principe. Pour découvrir ce principe, on interroge. Donc il y a d'abord la division des deux réalités. Puis, il y a l'interrogation sur la réalité naturelle pour se demander qu'est-ce que cette réalité naturelle dans son mouvement, puisque c'est ce qui est mu. L'œuvre artificielle, au sens strict, n'est pas mu. Elle est au-delà du mouvement en tant qu'œuvre artificielle. Antidestin. L'œuvre d'art, comme œuvre d'art, n'est pas corruptible. Elle est corruptible par la matière dont on se sert. Mais l'œuvre d'art, comme œuvre d'art, n'est pas corruptible, tandis que la réalité naturelle est corruptible. En tant que réalité naturelle. C'est ça l'intuition d'Aristote. Si je peux dire intuition, comme il y a intuition de l'être, il y a une intuition de la réalité naturelle. La réalité naturelle est corruptible par elle-même, tandis que l'œuvre d'art n'est pas corruptible. Et c'est pour ça que l'opposition entre les deux est si importante, pour mettre en lumière la corruptibilité. Donc la réalité naturelle est mue. La réalité artificielle n'est pas mue. Une statue, comme statue, n'est pas mue. C'est dans l'œuvre d'art que vous saisissez la forme. Et la forme, comme forme, n'est pas mue. Oui.
Est-ce que c'est ça, quand vous dites que ça présuppose de l'induction de l'aïdos?
Oui, je suis à cause de ça. Vous voyez, c'est que l'aïdos, comme tel, échappe au mouvement, provient d'un principe extrinsèque, qui est l'intelligence. Vous voyez, au fond, hein, quand je dis ça présuppose, comprenons bien, au sens strict, on induit la nature, on induit le principe nature indépendamment de l'eidos. Mais la mise en lumière de l'œuvre naturelle, de la réalité existence naturelle, est éclairée par ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fait allusion à la corruptibilité. On se dit, mais pourquoi ça, d'où ça vient, ça a l'air d'un cheveu tombé sur la soupe. Et non, c'est absolument nécessaire pour comprendre ce que c'est que l'œuvre naturelle, il faut comprendre la corruptibilité. L'œuvre naturelle est essence, la réalité naturelle, pas l'œuvre, mais la réalité naturelle est essentiellement corruptible. Ça, c'est capital à comprendre, hein. Tout le monde ne comprend rien du reste. Est essentiellement corruptible, alors que l'œuvre artistique, la réalité existante artificielle, n'est pas essentiellement corruptible. Elle est corruptible par accidence. La statue est corruptible par accidence. Les statues de pierre ne sont corruptibles qu'en raison de leur matière. En elles-mêmes, elles ne le sont pas. Antidestin. Vous voyez, ce qu'il a bien saisi, ça. Alors que le destin, il est marqué dans la réalité naturelle, puisqu'elle est en devenir. Donc elle est soumise à la moira. Et l'œuvre artificielle n'est pas soumise à la moira. C'est au-dessus. Quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose d'éternel, la forme artistique, dans un monde matériel soumis à la moira. Alors, une fois qu'on a compris que la réalité existante naturelle est corruptible, donc elle est ce qui est mu, on se pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce cette réalité? D'où vient-elle? Alors, quelle est l'interrogation qui me fait découvrir le principe? Est-ce que c'est le tiesti ou est-ce que c'est d'où ça vient? C'est important. C'est pas explicité. Alors évidemment, si je lis matériellement Aristote, je ne le dis pas, parce qu'il faut être fidèle à ce que dit Aristote. Mais il faut comprendre ce que dit Aristote pour être fidèle à Aristote. Je ne suis fidèle à la pensée philosophique d'Aristote que quand je l'explicite. Si je ne l'explicite pas, je répète et je ne comprends rien. Alors, quelle est l'interrogation? Est-ce que l'interrogation première dans la découverte de la nature, c'est l'origine ou c'est qu'est-ce? Qu'est-ce que vous dites? C'est... Oui, c'est l'origine. Puisque c'est le mouvement. C'est l'intelligibilité de la réalité mue. C'est pour ça que ça me vient un tout petit peu se mouvoir. Je crois que c'est ce qui est mieux, mais ça, c'est, je voudrais voir, point de vue grec. Parce que c'est ça. Moi, je le comprends, j'allais dire, parce qu'il y a une intelligibilité propre de ce qui est mu. Et l'intelligibilité propre de ce qui est mu se prend par l'origine. Vous voyez, la seule intelligibilité du mouvement première, c'est par l'origine. Une réalité qui est mue, alors d'où? Qu'est-ce qui lui donne son intelligibilité? Et tandis que l'intelligibilité de l'œuvre d'art n'est pas son origine. C'est curieux, hein? L'intelligibilité d'une œuvre d'art, c'est la forme. Et la forme, ce n'est pas premièrement le point de vue de l'origine. L'intelligibilité première de la réalité physique, c'est son origine, parce qu'elle est mue, parce qu'elle est corruptible. Oui.
Quand vous aviez regardé ce que c'était que le mouvement, il me semble que j'avais retenu que l'intelligibilité du mouvement se prenait par rapport à l'origine et par rapport au terme.
Oui.
Et le terme, là, c'est quoi?
On ne le dit pas tout de suite. Le terme, on le verra ensuite. Quand vous verrez que la nature, le principe de la nature, c'est matière et forme, et qu'en raison de la matière, la forme est fin. Mais voyez, la fin, la question que vous posez est très importante. La fin est explicite chez le vivant, mais pas dans la nature. C'est pas, ça ne se voit pas, la fin de la nature. Moi, je ne l'ai jamais vue. Venez, quelle est la fin de l'eau?
C'est pour ça que c'est très difficile. Mais
oui, et c'est pour ça que c'est au fond, c'est pour ça que je sais bien de voir que l'interrogation se pose non pas du côté de la finalité, je me pose pas du premier de la nature, en vue de quoi est la nature? Non. Ça a été la scolastique décadente, qui a voulu voir tout de suite la finalité dans la nature. Alors elle s'est mis le doigt dans l'œil. Alors on a dit, vous savez bien, les melons sont faits pour être mangeurs en famille. Parce que vous voyez que la finalité de la nature devient extrinsèque à la nature. Que les melons soient faits pour être mangés, c'est pas la finalité du melon. Que le chien soit fait pour être dressé, c'est pas la finalité du chien. C'est la finalité de l'homme. Or, j'étudie la nature en elle-même dans son intégrité propre. Que l'eau soit faite, ma sœur, l'eau, elle est faite pour me désaltérer. C'est évident qu'elle est faite pour me désaltérer, mais ce n'est pas la finalité de l'eau. La finalité du vin, oui, œuvre d'art. C'est très différent, la finalité du vin. La finalité du vin est immédiatement pour être dégustée. Mais la finalité de l'eau n'est pas immédiatement pour être bue. C'est ça que c'est intéressant, Cotignac, de savoir l'interrogation de notre cher Ricard posant à Saint-Joseph, j'ai soif. Venez. Il faut essayer de comprendre ces choses-là dans leur point de vue premier. Si on n'essaye pas d'un point de vue premier, on est tout de suite mis dans un point de vue qui n'est plus. Oui. L'ordre est la fin de la nature. La nature trouve en elle-même sa propre fin. Oui. Mais je ne le vois qu'en ayant découvert dans la nature principe formel, principe matériel. Ce qu'on voit après. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que l'induction de la nature n'est pas la nature forme. L'induction de la nature, c'est principe propre de ce qui est mu. Du fait d'être mu et du fait d'être en repos. Alors c'est pour ça que je voudrais savoir exactement le taux kinestai. Est-ce que je peux traduire le taux kinestai, le fait de se mouvoir, et le taux eremein. Quoi ? Mais oui, c'est pour ça que tu dis c'est d'être mu. C'est moyen, donc on peut traduire l'un ou l'autre. Quoi ? C'est les deux. Oui, c'est. Est-ce qu'on peut traduire l'un et l'autre en français ?
Non, parce que je crois que c'est ça, kinesthein, il me semble. C'est pas très sûr, mais ça serait kinesthein.
Alors, le taux kinesthein doit-il se traduire le fait de se mouvoir ou le fait d'être mu ? Et la bataille des Grecs.
C'est pas sûr, mais je crois que c'est de se mouvoir.
De se mouvoir. Oui, alors faisons attention. Hein. Il y a l'aspect littéral et l'aspect intelligent. Le dernier mot est au philosophe. Hein. Alors, je veux savoir si, grammaticalement, je peux traduire l'un ou l'autre. Et alors, si on peut traduire l'un ou l'autre, grammaticalement, je traduis être mu. Philosophiquement parlant. Parce qu'on part de ce qui est mu pour aboutir au principe de ce qui est mu. Parce que, vous voyez, ça ne me gêne pas, vous voyez, se mouvoir, ça ne me gêne pas. Parce qu'en réalité, le principe intrinsèque est un principe efficient, donc qui se meut, mais qui ne se meut pas du tout comme un vivant. Et c'est pour ça qu'en français, c'est très gênant. Parce que se mouvoir, c'est le vivant. Et alors il faudrait trouver le terme de dire mouvoir, le fait de mouvoir et d'être en repos. Alors, ce serait peut-être la seule manière de rester dans le point de vue de mouvoir. Et mouvoir impliquant le point de vue passif et le point de vue actif. Ça, c'est intéressant à discuter. Ce en quoi elle réside en premier, par soi et non par soi, et non selon l'accident. Je dis non selon l'accident parce que quelqu'un peut devenir soi-même à soi-même cause de la santé. Vous voyez, alors le me cata summebe cause. C'est très intéressant qu'Aristote donne comme exemple, un exemple où l'art peut intervenir. Hein, parce que quelqu'un peut devenir soi-même à soi-même cause de la santé en étant médecin. Quand un médecin se guérit lui-même parce qu'il a une bonne nature et qu'il ne fait pas appel à son art, il se guérit naturellement. Et quand il se guérit naturellement, il se guérit par lui-même. Et quand il se guérit par lui-même, il ne se guérit pas en fonction d'un principe extrinsèque. N'est-ce pas ? Je dis non selon l'accident, parce que quelqu'un peut devenir soi-même à soi-même cause de la santé en étant médecin. Et pourtant, ce n'est pas en tant qu'il retrouve la santé qu'il a en lui l'art médical. Mais il se trouve par accident que sont la même personne médecin et celui qui retrouve la santé. D'où vient aussi que ces deux qualités sont parfois séparées l'une de l'autre. Parce qu'il n'y a pas que des médecins qui se guérissent. En réalité, ce n'est pas le médecin comme médecin qui se guérit, mais c'est l'homme et la nature de l'homme qui se guérit. Autrement dit, l'art médical aide à trouver la santé. Mais ce n'est pas l'art médical qui donne la santé. C'est la nature qui guérit, qui se guérit. Ou qui est guérie. Et chacun des autres réalités que l'on fait se dissocie de manière semblable. Aucune d'elles, en effet, n'a en soi le principe du faire qui la produit. Mais les unes ont ce principe en des réalités autres et à l'extérieur d'elles-mêmes. Telles sont, par exemple, une maison et chacune des autres réalités qui sont produites à la main. Les autres l'ont en elles-mêmes, mais non par elles-mêmes, à savoir toutes celles auxquelles il advient, selon l'accident, d'être cause pour elles-mêmes. Donc vous voyez ça, le kata summebe cause, le non selon l'accident est très important pour bien délimiter ce qui relève de la nature et ce qui ne relève pas de la nature. Se guérir, sortir d'une maladie, d'une forte vie de fièvre, est-ce que c'est selon la nature ou pas ? L'art médical peut nous aider, mais c'est la nature qui retrouve la santé. En s'aidant de l'art. C'est pour ça que l'art médical est toujours ordonné à la nature. La définition que donnait au Moyen-Âge l'art médical et qui est tout à fait aristotélicienne. Art coadjuvans natura. Coadjuvans natura. Et donc les principes sont la nature. Vous voyez, c'est le principe de l'homéopathie. À la différence de l'allomatique qui veut, elle, remplacer la nature. C'est là la grosse différence. Être complètement contre l'allopathie, mais il faut faire attention. Parce qu'on supprime la nature. Tandis que de l'autre côté, pas du tout. C'est la nature qui doit se guérir. C'est l'homme qui doit retrouver la santé. Et on vient donner un petit coup de pouce pour aider. On dispose, mais pas plus. Ars coadjuvans naturam. Bon, à une nature d'autre part, donc c'est toujours Aristote qui précise ce qu'il a déterminé. À une nature, d'autre part, tout ce qui a en soi un principe de cette sorte. Donc, tout ce qui a en soi un principe de cette sorte a une nature. Et toutes ces réalités sont une substance, car toujours la nature est un certain sujet et existe dans un sujet. Ah, très intéressant. Où Aristote montre comment la nature est quelque chose de substantiel. Et en réalité, c'est de dire « est quelque chose de substantiel ». Ce n'est pas substance comme principe, c'est substance comme sujet. Donc c'est pierre, c'est la catégorie substance première. Ce n'est pas la substance principe, c'est très intéressant ça, hein, à bien voir. Phusis un esti to reten, phusinde ekei ossa toiotes ekei arken, kai esti panta tota usia. Donc les panta tota esti usia sont substance, sont des réalités substantielles. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Sont des réalités substantielles. Parce que dès qu'on dit substance, là, vous voyez, toutes ces réalités sont une substance, je veux bien, une substance. Ce ne sont pas la substance. Sont une substance, sont des réalités substantielles. Car toujours, la nature est un certain sujet. Donc, la nature est toujours hypokaimenon. Car toujours, ti. Hypokaimenon, est un certain sujet. Et la nature est toujours dans un sujet. Elle existe dans un sujet. Donc, voyez, ça veut dire que toute réalité naturelle est substantielle. Quand Aristote dit que toute réalité naturelle est substantielle, il veut dire que toute réalité naturelle possède un principe. Donc c'est quelque chose de premier. Et substance est pris ici, là, comme quelque chose de premier dans l'ordre de l'exister. Dans l'ordre de l'exister. Donc sujet. C'est le taux des dix, des catégories. Sont ou deviennent, selon la nature, enfin. Kataphusen, tota, te, kai, ossa, tutois, uparkein. Katu. Katota. Donc, sont ou deviennent, selon nature, enfin, ces substances et tous les phénomènes qui leur appartiennent. Et tous les phénomènes qui leur appartiennent par soi. Comme par exemple, pour le feu, celui d'être porté vers le haut. Alors ici encore, hein, j'aimerais savoir, au point de vue grec, porter vers le haut, est-ce que c'est passif et c'est actif? Se porter, il devrait dire se porter vers le haut. Hein? Hein?
Je crois que c'est moyen.
C'est moyen encore. Donc, c'est au fond, c'est là où je voudrais... Quand c'est moyen, est-ce que c'est... Vous pouvez traduire ce ou passif.
Polaris, c'est pas la même chose.
Non.
Polaris, le passif, c'est... Je crois que c'est Ferefein, à mon avis.
Donc,
je crois que c'est moyen.
Et vous traduisez comment?
Disons que c'est traduire par le... Le moyen, c'est difficile à traduire.
Ah, c'est impossible à traduire.
C'est pas tout à fait exact. Ça a des nuances que c'est difficile.
Que le français ne dit pas. Est-ce que le Est-ce que l'espagnol le dit?
Je
pourrais savoir ça. Non, parce qu'ordinairement, les traductions espagnoles pour la grecque d'Aristote sont meilleures. La traduction de la métaphysique espagnole est bien meilleure que celle de Tricot. Il faut dire que Tricot n'est pas entièrement français, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, la traduction espagnole est meilleure. Avec José Lorité, on prenait toujours l'espagnol. La traduction espagnole de la métaphysique est meilleure. Je ne sais plus c'est de qui. Mais vous voyez, elle est pas mauvaise. Et là, c'est pour ça qu'il faudrait se demander si, au fond, l'espagnol arrive à mieux traduire le moyen.
C'est des nuances propres
au grec. Oui, ils sont très difficiles à traduire. Et là, vous mettriez comme nuance propre au grec quoi? Quoi?
Disons que le moyen, c'est pas tout à fait...
C'est ni actif, ni passif, c'est moyen.
Mais ça ne veut pas dire que ça peut être traduit indifféremment.
La précision par elle-même.
Par elle-même? Alors, c'est passif ou actif?
C'est pas passif.
Et c'est pas actif?
C'est moyen, mais il y a une précision. Le sujet possède plus son action.
C'est-à-dire, c'est relatif à l'intériorité du sujet sans mettre le « se mouvoir ». Alors, on devrait dire un principe immanent du mouvoir. Est-ce que ça ne traduirait pas mieux? Parce que, est-ce que le moyen... Vous voyez, au fond, c'est actif et passif. C'est ça qui est terrible dans la langue. Et je dis ça, c'est parce que c'est très important. Si la nature est principe immanent du mouvement, ce principe immanent du mouvement, on le traduirait facilement par « se mouvoir ». Mais d'autre part, ce principe immanent du mouvement n'est pas un principe vital. Et le principe vital, on met l'accent sur « se mouvoir ». Or, on est au niveau de la nature. Alors, il faut pouvoir traduire que ce principe immanent est un principe immanent, donc qui meut, sans se mouvoir. Vous voyez, mais ça fait comprendre comment, vous savez bien, c'est même les traductions françaises qu'on voit du contrat Gentilès, parce que j'ai celle-là directement en tête, ou pour le tout ce qui est mu par un autre. Vous voyez, eh bien, de fait, les traductions tout ce qui se meut est mu par un autre, ça ne va plus du tout. C'est là qui est très difficile. Alors, au moins, il faut alerter, il faut se poser le problème et essayer de comprendre. Comme, par exemple, pour le feu, celui d'être porté vers le haut, ce phénomène, en effet, n'est pas une nature, ni n'a une nature, mais il existe par nature et selon la nature. Alors là, aussi, c'est très important. Hein. Fouseil des cailles. Kataphusein, ou des ekaiphusines, donc il n'a pas de nature, mais il est fouseil et le kataphusein. Alors soulignez ça et essayez de préciser toujours le fouseil d'Aristote et le kataphusein, selon la nature, parce que vous retrouvez ces expressions dans saint Thomas pour essayer d'exprimer la différence entre la grâce et la nature. On dira que la grâce n'est pas selon la nature, mais n'est pas contraire à la nature. Et vous avez le secundum naturam, le kataphusin. C'est pour ça que ça m'intéresse, vous comprenez? Parce que n'oubliez pas toute la métaphysique, toute la vision de saint Thomas entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Que qu'est-ce que c'est que le mot nature, hein ? Il faut quand même essayer petit à petit d'arriver à une précision. Évidemment, c'est la nature humaine. La nature humaine, c'est pas la nature telle qu'Aristote en parle ici. Il y a déjà une modalité particulière, parce que c'est la nature d'un vivant. Oui.
Et pour la grâce aussi, on utiliserait le moyen.
Oui. Mais en latin. Comment on traduit le moyen en latin ? Qu'est-ce qu'il y a ?
On utilise souvent la passive.
Le participe ?
La voix passive.
La voix passive, oui. On traduit plutôt la voix passive, c'est ce qui me semble. Le mauvais tour. C'est comme ça que c'est traduit en latin. C'est pour ça que moi, instinctivement, je m'étais, à cause du latin, ému. Mais c'est possible que ce soit déjà une interprétation latine et que le latin est plus mu que le grec. Hein ? C'est ça qu'on devrait dire. Le latin est donc plus passif que le grec. Le grec est très peu passif. C'est pour ça que nous aimons le grec. Parce que le grec est peu passif, tandis que le latin est plus passif. Il y a des génies de langue comme ça qui sont très curieux. Et c'est intéressant parce que c'est quand même très intéressant et très important d'essayer de saisir cette induction première d'Aristote de la phonésis. Ça me semble extrêmement important. C'est pour ça que ces lieux sont très intéressants et très importants. Alors je sais très bien qu'on peut gloser. Hein. Alors on peut gloser. Mais il faut gloser le moins possible. Et essayer de saisir de la manière la plus proche. Alors j'aimerais que les hellénistes reprennent cette traduction, du moins, pas nécessairement la reprendre, mais donne la traduction la plus proche possible de ce que représente ici la phousis telle qu'Aristote la donne.
En tout cas, ils sont sûrs que pour les grammairiens, le moyen ne se traduit pas par un réfléchi direct. Il est plutôt réfléchi indirect.
Alors, traduisez.
C'est plus du côté passif. Enfin, non, je dirais non. C'est un actif, mais qui ne se traduit pas par le C.
Oui, c'est ce que je crois. Moi, je mettrai le C entre parenthèses. Il m'aiderait mouvoir. Si on peut, voyez, en français, pour essayer le plus proche possible. Parce qu'on explicite. Et au fond, on n'explicite pas. Curieux, voilà. Bon, continuons. C'est un très beau sujet à débattre en récréation. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, des matières. C'est tout de suite voir qu'est-ce que c'est que ce génie grec de cette forme-là du verbe. C'est très très intéressant à voir ça. Mais il existe par nature et selon la nature. Ainsi donc, on a dit ce qu'est la nature. On l'a dit, et on a tous compris. Os esti ephousis. Donc, comme est la nature, on a dit ce qu'est la nature. Et ce qu'est le fait d'être ou d'advenir par nature et selon la nature. Et que la nature existe, chercher à le démontrer serait risible. Ça, c'est très bien. Vous voyez, le coup de chicnaude à Descartes. C'est extraordinaire. Aristote démolit Descartes en disant c'est risible. Il doit rire de Descartes dans le ciel. Et de voir que tous ces Français se sont attachés à Descartes sans comprendre leur grand-père grec. Mais que la nature existe, chercher à le démontrer serait risible. C'est très important, ça, ce qui montre que dans l'induction, le jugement d'existence demeure. Contrairement à la phénoménologie qui met entre parenthèses le jugement d'existence. Dans l'induction, le jugement d'existence demeure dans le principe. Puisqu'on est parti des réalités existantes, on saisit le principe, et dans le principe, l'existence demeure. C'est pas explicité, mais il demeure. Il est clair, en effet, que plusieurs des êtres sont de cette sorte. Or, démontrer les choses qui sont claires par le moyen de celles qui sont obscures est le fait d'un homme qui n'est pas capable de discerner ce qui est par soi accessible à la connaissance et ce qui n'est pas accessible par soi à la connaissance. Incapable de philosopher, ces bons hommes-là. C'est ça que ça veut dire, hein ? Incapable. Or, démontrer les choses qui sont claires par le moyen de celles qui sont obscures, ça, c'est l'aveugle qui conduit le borgne. Ou l'aveugle qui conduit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous expliquez le Nouveau Testament par l'Ancien. Le coup de patte magistral d'Aristote. Parce que le Nouveau Testament est plus clair que l'Ancien. Et vous voulez expliquer le Nouveau par l'Ancien. Vous ramenez ça. Et c'est vrai, il faut essayer de le comprendre, ça. Chouraki dit textuellement qu'il n'y a rien de nouveau dans Saint Jean comparativement à l'Ancien Testament. Très intéressant, si je voudrais, il faut le saisir directement pour comprendre ce qui est dit ici. Or, démontrer les choses qui sont claires par le moyen de celles qui sont obscures et le fait d'un homme qui n'est pas capable de discerner ce qui n'est pas, ce qui est par soi accessible à la connaissance, ce qui est par soi tout simplement. Ce qui est accessible à la connaissance, ce qui est par soi, et ce qui n'est pas accessible par soi à la connaissance. Qu'il soit loisible, parce que ce qui est par soi, vous voyez, c'est la ratio. Et à la connaissance, c'est trop, c'est le concept. Tandis que ce qui n'est pas par soi, à la connaissance, là, il faut mettre la connaissance. C'est très très curieux, et c'est très joli, ça, c'est précision grecque, qu'il soit loisible de souffrir cette déraison.